VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 16 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Bénin, renforcement du dispositif de sécurité dans le pays.
Les cadavres de 34 migrants, dont 20 enfants, ont été retrouvés dans le désert nigérien.
Au Mali, chronogramme pour l'installation des autorités intérimaires dans les régions nord.
Des débris de la carlingue de l'avion d'Egypt Air qui s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai ont été localisés sur plusieurs sites.
En Irak, les forces de sécurité dans Fallujah.
Le président Obama en visite aujourd'hui à Orlando, en Floride. Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le Bénin renforce donc son dispositif de sécurité après avoir reçu une nouvelle alerte de menace terroriste. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le chef d'état-major de l'armée béninoise, le général Awal Nanimi, dit qu'il s'agit d'un message de routine envoyé de façon régulière et ne devait pas se retrouver dans la presse. Mais depuis ce week-end, les journaux béninois reprennent en boucle le texte disant « Suite à une nouvelle alerte de menace terroriste, il est demandé à l'ensemble des forces de l'ordre béninoises de renforcer la sécurité sur différentes zones menacées et d'être plus vigilantes lors des fouilles aux frontières. » Il n'y a pas de précision sur la nature de la menace. Le Bénin a proposé d'apporter son aide à la force multinationale pour combattre Boko Haram au Nigeria. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont pris des mesures de sécurité renforcées après les attentats de Ouagadougou en janvier qui avaient fait 30 morts, puis ceux de Grand Bassam qui avaient fait 19 morts en mars. Ces attaques ont été revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Au Niger, dans la région de Diffa, une attaque récente de Boko Haram a jeté des dizaines de milliers de personnes sur les routes. Le gouverneur de la région a affirmé qu'il était difficile de leur venir en aide et que l'État cherche à les regrouper sur des sites. Morgan Guiriec.
Les gens se déplacent et s'ils sont dispersés, c'est difficile de les aider, a déclaré Dandano Mamadou Lawali, gouverneur de Diffa, près de la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Malgré cette dispersion, il promet d'ici demain de donner un chiffre exact du nombre de déplacés. Au moins 50 000 personnes ont fui cette zone après une attaque de Boko Haram le 3 juin à Bosso. Au moins 26 soldats nigériens ont été tués. En déplacement en France ce mardi, le président Mamadou Issoufou a reconnu que ses forces ont malheureusement été débordées. 2000 soldats de l'armée tchadienne sont venus en renfort. Ils doivent lancer de façon imminente une contre-offensive contre Boko Haram en coordination avec le Nigeria, le Niger et le Cameroun.
Au Niger, toujours, les cadavres de 34 migrants, dont 20 enfants, ont été retrouvés la semaine dernière dans le désert nigérien alors qu'ils tentaient de se rendre en Algérie voisine. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère nigérien de l'Intérieur. Précision de Jean-Roger Bion.
34 personnes, dont 5 hommes, 9 femmes et 20 enfants, ont trouvé la mort dans leur tentative de traverser le désert, précise le ministère dans un communiqué transmis à l'AFP. Ils sont probablement morts de soif, comme c'est souvent le cas, et ils ont été retrouvés près d'Assamaka, un poste frontalier entre le Niger et l'Algérie, a confié à l'AFP une source sécuritaire. Les migrants ont été abandonnés par des passeurs au cours de la semaine du 6 au 12 juin 2016, explique le communiqué. Seuls 2 corps ont été identifiés, ceux d'un Nigérian et d'une Nigérienne de 26 ans, précise le texte. Dans le communiqué, le ministère attire l'attention des migrants clandestins sur les risques qu'ils courent en tentant cette voie périlleuse savamment entretenue par des réseaux de criminels.
Au Mali, les groupes armés qui avaient boudé le processus de mise en application de l'accord de paix sont revenus sur leur décision. Et avec le gouvernement, un chronogramme a été établi pour l'installation des autorités intérimaires dans les régions nord du pays. De Bamako, Kassim Traoré.
Les protagonistes de la crise malienne se retrouvent encore. Ils viennent de convenir de l'installation des autorités intérimaires dans la région nord du Mali. Le chronogramme établi dans ce sens débute le 1er juillet prochain par l'installation du MOB, suivi du redéploiement de l'administration d'État du 15 juillet au 15 août 2016, ce qui permettra le retour des services techniques de l'éducation pendant le même mois d'août jusqu'à la fin septembre. Les autres services techniques, comme la santé, l'énergie, pourront signaler le retour du 1er août au 30 septembre 2016. Pour ce qui est du redéploiement de l'administration judiciaire qui va boucler cette série de retours, elle s'effectuera du 1er août au 30 septembre de la même année. Le gouvernement et les groupes armés se sont mis d'accord pour la mise en place des autorités intérimaires qui devront administrer les régions nord du Mali. Elles seront mises en place dans les collectivités territoriales des 5 régions administratives du nord du Mali. Les membres des autorités intérimaires seront désignés de manière consensuelle. Elles seront composées de représentants des groupes armés et ceux du gouvernement malien. Le hic dans cette affaire est le fait que l'État malien va siéger dans les structures avec les groupes armés, ce qui n'est pas du goût de bon nombre de Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les magistrats ont lancé une mise en garde au président ROC Marc Christian Kabore. Récemment, ses déclarations laissaient entendre la fin possible de la séparation des pouvoirs de l'exécutif et du judiciaire. Mélis Hegel.
C'est une véritable remise en cause de l'indépendance de la justice. Les syndicats de la magistrature accusent le président Kabore de remettre en cause le pacte national pour le renouveau de la justice, un pacte signé en mars 2015 consacrant la séparation stricte des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Une loi sur la justice avait renforcé ce pacte. Promulguée par le Conseil national de transition, elle retire au pouvoir politique la présidence du Conseil de la magistrature. Or, en marge d'un sommet des dirigeants d'Afrique de l'Ouest tenu à Dakar le 3 juin dernier, le président Kabore a exprimé le souhait de reprendre le contrôle de la présidence du Conseil de la magistrature. Le déni de justice a été l'une des principales causes de la révolte populaire qui a chassé Blaise Compaoré après 27 ans de règne sans partage. Les manifestants ont été révoltés par les nombreux dossiers judiciaires restés sans suite, notamment le meurtre de notre confrère Norbert Zongo et l'assassinat de Thomas Sankara.
République démocratique du Congo, l'abbé Apollinaire Malumalu n'est pas décédé, contrairement à ce qui avait été annoncé récemment. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante va mieux et son état de santé se stabilise. C'est ce qu'a déclaré hier à Kinshasa Corneille Nangaa. Le président de la CENI revient des États-Unis où il est allé rendre visite à son prédécesseur. On écoute M. Nangaa au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Se faisant suite à la nouvelle qui s'était répandue il y a 10 jours, faisant état du décès de l'abbé Apollinaire, l'ancien président de la CENI, que nous avons conduit une délégation composée entre autres de l'évêque de diocèse de Boutembo-Béni, du docteur Soulou, du président de la CIME, ainsi que d'autres, pour s'enquérir de l'état de santé de l'abbé Apollinaire. Il s'est fait qu'il est entré depuis 10 jours à un état critique. Sa santé s'est nettement dégradée, mais il est en vie. Et nous l'avons vu, il nous a reconnus. En ce jour, son état est stable. Il est lucide et coopérant. Donc c'est pour dire que nous suivons cette question de très près, conformément au règlement intérieur de la CENI.
Corneille Nangaa, président de la CENI, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama se rend aujourd'hui à Orlando, en Floride, pour rencontrer les survivants de la pire fusillade de l'histoire des États-Unis et exprimer sa solidarité avec une ville secouée par la violence et l'horreur. Il rencontrera aussi les secouristes ainsi que les médecins et chirurgiens traitant les 53 personnes blessées dans l'attaque de dimanche contre la boîte de nuit gay. Entre-temps, le FBI a dit que la femme du tueur Omar Mateen avait une certaine connaissance des projets de son mari et pourrait ne pas avoir alerté la police. Par ce manquement, Nour Zahi Salman pourrait être inculpée.
Les forces de sécurité irakiennes sont dans Fallujah, 3 semaines après avoir lancé leur offensive pour reprendre ce bastion du groupe État islamique. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la coalition luttant contre les djihadistes en Irak et en Syrie. Elles tentent maintenant de prendre le centre de la ville avant de poursuivre leur progression, a-t-il ajouté.
À Moscou, Moscou a annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de 48 heures dans la ville syrienne d'Alep. Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État américain John Kerry avait haussé le ton contre Damas et son allié russe au moment où les combats redoublent de violence dans le nord de la Syrie. La trêve instaurée à l'initiative de Moscou et Washington le 27 février est régulièrement violée depuis avril.
Des débris de la carlingue de l'avion d'Égyptair qui s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai ont été localisés sur plusieurs sites. C'est ce qu'a annoncé mercredi la commission d'enquête égyptienne alors que le temps est compté pour retrouver les boîtes noires qui cesseront d'émettre le 24 juin. Seules les analyses des enregistreurs de vol pourront permettre de connaître les causes du crash de l'avion qui avait 66 personnes à son bord.
Le président provisoire d'Haïti, Joslerm Privert, a affirmé mercredi que la situation était sous contrôle. Son mandat a techniquement pris fin la veille et a créé un vide institutionnel dont s'est émue la communauté internationale.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le journal de l'Euro 2016 en France avec Timothée Donangmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Idrissa.
L'Euro 2016, suite de la deuxième journée de la phase de groupe ce jeudi, chaude alerte pour le pays hôte, la France, qui s'en est tirée de justesse hier soir face à l'Albanie.
Dans ce match du groupe A, les Albanais ont résisté jusqu'au bout à Marseille. Il a fallu attendre la 90e minute pour que les Bleus inscrivent par Griezmann, puis Payet aux arrêts de jeu, s'imposant par 2-0. Leurs supporters ont poussé un grand ouf de soulagement. L'autre match du groupe A s'est soldé par un nul, un but partout, entre la Roumanie et la Suisse. Dans le groupe B, la Slovaquie s'est relancée en battant la Russie 2-1. Retour sur ce match avec notre correspondant à Paris, Christian Panzou.
Revanchard, les Slovaques ont très vite donné le ton d'une rencontre déjà décisive pour l'avenir des deux équipes dans la compétition. Sous pression, la Slovaquie n'avait pas le droit à l'erreur. Une défaite aurait d'ores et déjà éliminé la sélection de Jan Kozak. Sous le toit fermé du stade Pierre-Mauroy, les Russes animent le premier quart d'heure du match en se procurant quelques occasions. Mais ce sont les Slovaques qui ouvrent le score. Bien trouvé par Marek Hamšík, Vladimir Weiss élimine son vis-à-vis grâce à un crochet dans la surface et trompe le gardien russe à la 32e minute. Juste avant la mi-temps, la Slovaquie inscrit même un deuxième but, une frappe enroulée sublime signée Marek Hamšík, qui figurera certainement parmi les plus beaux buts du tournoi. La Russie réduit l'écart à 10 minutes du terme, mais la défense slovaque reste solide jusqu'au coup de sifflet final pour assurer une victoire primordiale avant le troisième match de groupe contre l'Angleterre. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Le tableau des matchs de ce jeudi, Tim.
Dans le groupe B, l'Angleterre croise le fer avec le Pays de Galles, leader du groupe, avec 3 points. Et dans le groupe C, duel des leaders, Allemagne-Pologne, 3 points chacune, tandis que l'Ukraine et l'Irlande tenteront de se départager, ayant 0 point chacune.
Le coup de sifflet de Jules Valentin Gouin.
La revue d'effectifs de la première journée vient de s'achever sur un surprenant score de parité entre l'Islande et le Portugal. C'est l'occasion de tirer les premières leçons de ce tournoi qui ne fait que commencer. Il y a d'abord cette accumulation de matchs aux résultats très serrés, révélateur du nivellement de valeur qui caractérise désormais le football européen. Mais il faut aussi mettre cette tendance au crédit des plus petits, encore suffisamment en jambes en début de tournoi pour contrarier les gros empêtrés dans les derniers réglages. Ce ne sont pas les Français, les Portugais et les Autrichiens, et même des Russes ou les Anglais qui nous démentiront. Pour l'heure, les équipes ont gagné le premier match et ont fait leur moitié de chemin car seules 8 formations sur les 24 présentes seront éliminées au premier tour. Et les vedettes confirmées sont discrètes, à l'exception de Luka Modric, d'Iniesta ou du gardien allemand Neuer. Mais attention, la compétition est longue et elle ne fait que commencer. Tout est encore possible, alors faites vos jeux, rien ne va plus.
Merci pour ce journal de l'Euro 2016.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Plus de 1000 Burundais refoulés du Rwanda pour séjour illégal sur son territoire sont arrivés dans leur pays depuis le 14 mai dernier. À noter que quelques mois après l'éclatement de la crise au Burundi, les autorités avaient expulsé plusieurs Rwandais établis depuis très longtemps dans le pays. Pour en savoir plus, Eric Manirakiza a joint dans le nord du Burundi le correspondant de VOA Afrique centrale, Jean Bosco Ndarurinze.
Certains disent avoir quitté le Burundi il y a plus de 10 ans pour chercher comment améliorer leur vie au Rwanda. Expulsés par surprise, ils se lamentent de ne pas avoir eu la permission de récupérer leurs biens, notamment leur production agricole. Au moment où ils sont arrivés au Burundi, ils ont été bien accueillis d'abord par l'administration qui disait que leur expulsion est une marque que le Burundi a un mauvais voisin.
Mais le Rwanda dit qu'ils ne sont pas connus par l'administration rwandaise. Qu'est-ce qu'ils racontent? Pourquoi ils ne se sont jamais fait enregistrer?
Effectivement, Eric, ces Burundais disent qu'au moment de leur expulsion, les autorités rwandaises leur demandaient de retourner au Burundi pour chercher les papiers leur autorisant de vivre au Rwanda et en fait pour pouvoir revenir après avec des papiers. Mais les Burundais qui expulsaient étant bien sûr issus d'une famille aussi pauvre et disent qu'ils ne peuvent pas avoir ces papiers très facilement. Des papiers qu'on ne peut trouver nulle part à Kabujumbura. Alors, ils n'ont pas eu l'espoir de retourner au Rwanda pour pouvoir récupérer leurs biens et mener leur vie qu'ils menaient auparavant.
Est-ce qu'ils reçoivent de l'aide une fois arrivés au Burundi? Comment sont-ils traités?
Ce que je peux dire, c'est que d'abord, il y a des personnes qui sont allées au Rwanda il y a plusieurs années. À leur retour au Burundi, ils n'avaient pas de maison où ils pouvaient loger, ils n'avaient pas de lopin de terre où ils pouvaient trouver quelque chose à mettre sous la dent. À leur arrivée au Burundi, ils étaient démunis. L'administration a pu s'enquérir auprès du ministère de la Solidarité nationale pour demander quelques vivres qui pouvaient les aider à pouvoir vivre les premiers jours. Il y a la Croix-Rouge, il y a aussi l'OPAM qui a pu donner quelque chose.
Vous dites que les autorités burundaises considèrent qu'ils n'ont pas un bon voisin, mais c'est le Burundi qui a quand même commencé à expulser des Rwandais qui étaient établis depuis très longtemps au Burundi.
Après l'expulsion des Burundais du Rwanda, il y a eu expulsion des Rwandais du côté burundais. Des Rwandais même qui ont passé plusieurs années au Burundi, des Rwandais qui ont même fait l'école primaire au Burundi depuis les années 59 ou 60, qui ont été expulsés, même qui font partie des fonctionnaires qui ont été expulsés dernièrement. Au moins 10 Rwandais ont été expulsés du Burundi vers le Rwanda après l'expulsion d'habitants Rwanda vers le Burundi.
Jean Bosco Ndarurinze à Kirundo, dans le nord du Burundi. Au Sénégal, le président Macky Sall a de nouveau évoqué cette semaine l'éventualité d'une libération prochaine de Karim Wade, condamné en mars 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, le fils de l'ancien président sénégalais en détention depuis plus de 3 ans. La presse parle beaucoup de cette affaire et Idriss Fall a recueilli l'avis d'un confrère, Ismaïla Camara, journaliste à Dakar.
Ce mélodrame, on peut le comprendre dans la mesure où Karim Wade, ministre de la Terre du Ciel, faisait la pluie et le beau temps au Sénégal. C'est le fils de l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Il a été puissant ministre au moment où son père dirigeait le Sénégal. Il peut susciter ses réactions. On peut dire que le président Macky Sall va finalement libérer Karim, comme l'affirment certains journaux à leur une aujourd'hui. Cette question a été même au centre de sa rencontre avec le Khalife des Mourides. Selon certaines indiscrétions, Karim Wade pourrait même passer la qualité chez lui.
Mais c'est un véritable camouflet pour la justice sénégalaise qu'il avait condamné à 2 ans de prison, non?
Idriss Fall, il faut le dire, la politique a toujours eu le dessus sur la justice au Sénégal. Surtout entre le judiciaire et l'exécutif, il y a énormément de problèmes. On voit que le président a son dernier mot sur certains sujets. La justice peut juger une personne, la condamner, mais par l'effet d'une grâce, cette personne-là peut recouvrer la liberté. C'est le politique qui prend le dessus, c'est l'exécutif qui prend le dessus sur le pouvoir judiciaire au Sénégal.
Mais on se rappelle, Abdoulaye Wade avait jeté en prison un certain Idriss Seck. On pourrait aussi comprendre qu'un certain Macky Sall a jeté en prison un autre Karim Wade pour des raisons politiques.
D'abord, je pense que avant que ça soit une raison politique, on avait parlé de traque des biens mal acquis. Quand Macky Sall est arrivé à la tête du Sénégal, il avait pour ambition d'assainir les finances. Il avait parlé même de gouvernance sobre et vertueuse. C'est dans ce sens-là qu'il s'est lancé dans la traque des biens mal acquis. Pour faire revenir l'argent que des leaders ont volé, entre guillemets, et puis montrer aux Sénégalais qu'il y a des dirigeants propres. 4 ans après, Karim Wade, qui était le seul à être condamné, alors qu'on avait parlé de Maître Ousmane Gom, de d'autres responsables cités dans des affaires, mais qui n'ont pas été entendus par la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui avait condamné Karim Wade et qui a été contesté en amont par bon nombre de la classe politique sénégalaise, mais également certains de la société civile.
Et la corruption continue, bien sûr, de plus belle, comme l'impunité apparemment est encouragée maintenant.
Oui, c'est l'impunité. Je pense que les gens vont continuer à prendre l'argent qui ne leur appartient pas. C'est dommage pour notre économie, c'est dommage pour l'image que nous projetons à la société. Je pense que ce n'est pas bon pour le Sénégal et je pense que les institutions de Bretton Woods sans doute auront à redire sur cette façon de faire de nos dirigeants.
Ismaïla Camara, journaliste à Dakar.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Côte d'Ivoire, hier, la SOTRA a signé un nouvel accord avec la société indienne Tata pour la fourniture de 500 bus, a dit à VOA Afrique le directeur général du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Au micro de Nathalie Barge, Esmel Emmanuel ici.
Cette visite est la première du genre d'un président indien dans notre pays et c'est tout à fait le signe de l'excellence des relations qui entre les deux pays, mais surtout c'est le signe de la décision ou de l'option prise par les deux chefs d'État de pouvoir renforcer davantage cette coopération sur le plan économique.
Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est accru de 40% entre cette période, donc 2014 et 2015. Comment explique-t-on cela ?
Écoutez, il faut savoir que l'Inde est beaucoup acheteur de matières premières chez nous, principalement l'anarcade. L'anarcade, ce pays se plaçait comme premier producteur mondial jusqu'à encore l'année dernière. Et donc toute la production ivoirienne à 80% est achetée par donc ce pays. Notre production ayant connu une progression très forte, nous sommes maintenant à près de 800 000 tonnes, premier producteur depuis cette année. Vous comprendrez donc que les échanges commerciaux ont connu cette croissance due à cette embellie au niveau de ce produit principalement. Évidemment, il y a d'autres produits tels que le cacao qui est concerné, les produits pétroliers, et puis nous, dans notre sens, on achète beaucoup de produits pharmaceutiques, la viande, des véhicules. Vous savez que nous avons signé un contrat avec Tata, qui est présent ici en Côte d'Ivoire et qui travaille beaucoup avec la SOTRA. Mais ce qu'il faut dire, c'est que là, aujourd'hui, il y a eu une signature d'un mémorandum entre la SOTRA et Tata pour la fourniture de 500 bus dans les mois qui viennent. Donc, ça va encore augmenter davantage, je dis, ce parc qui est déjà existant.
Vous pouvez nous citer d'autres signatures importantes éventuellement qui ont été effectuées lors de sa visite ?
Écoutez, il y a la signature qui a été faite ce matin. Je parle principalement du secteur privé, hein, qui a été signée entre le CPC et le CII, hein, qui est la Confédération des industriels donc indiens, qui va permettre de pouvoir créer cette plateforme justement d'échange, parce que comprenez que la Côte d'Ivoire a pris la résolution pour 2016-2020 d'aller à l'industrialisation de son économie. Donc, qui parle d'industrialisation, donc, parle de recherche de compétences à ce niveau, et donc c'est en cela que cette plateforme que nous avons signée avec cette confédération va nous permettre d'établir le pont entre des hommes d'affaires ivoiriens, des potentiels investisseurs ivoiriens, et puis know-how indien dans ce domaine qui a très très diversifié son industrie de la transformation agricole à la transformation métallique et mécanique et tout ce qui est, je veux dire, industrie technologique. Donc cette plateforme que nous avons signée va aider, je veux dire, à faire ce pont technologique entre ces deux pays.
Emmanuel Essi, Esmel Emmanuel Essi, directeur général du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
Être grand cuisinier, le métier fascine les jeunes Américains. La compétition est féroce et pour dénicher les meilleurs talents, des concours sont organisés dans certaines grandes villes du pays, dont New York. Jacques Aristide nous amène découvrir les Young Chefs et Commis Competitions qui sont tenus récemment dans le centre de Manhattan.
On coupe, on hache, on assaisonne, on fait frire, la pression monte, pas de temps à perdre, bref, que le meilleur gagne. Nous sommes dans le concours des jeunes chefs et commis de cuisine de la Fondation Mentor, à l'Institut d'éducation culinaire, une compétition qui n'existe que depuis 2008, mais qui est vite devenue l'une des plus prestigieuses de New York. Derrière les fourneaux, 9 jeunes issus de quelques-uns des plus grands restaurants des États-Unis s'affrontent devant un public passionné. Des jeunes qui ont manifestement du pain sur la planche, sans mauvais jeu de mots. Sarah Tsier, candidate.
Je pense que c'est une formidable expérience ainsi qu'une opportunité d'apprentissage.
Brendan Scott, autre concurrent.
5 ans de cela, je ne savais même pas comment faire bouillir de l'eau. Et aujourd'hui, à travailler pour un restaurant à 2 étoiles Michelin et prendre part à cette compétition.
Ils ont quelques heures pour impressionner les membres du jury, dont le célèbre chef Daniel Boulu.
Le but de cette compétition, c'est plus pour récompenser les jeunes espoirs qui, aujourd'hui, font un travail superbe et qui ont progressé et qui sont très engagés dans leur investissement en tant que jeunes chefs et qui veulent vraiment montrer qu'ils sont à un stade où ils peuvent prouver leur talent.
À la clé, la chance de faire partie l'an prochain de l'équipe américaine au plus grand concours de la cuisine au monde, le Bocuse d'Or en France. Jérôme Bocuse, fils de l'illustre Paul Bocuse.
Ce que l'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont bien représentés au Bocuse d'Or. Et ça, c'est à l'image de ce que l'on peut voir ce qui se passe dans le pays aujourd'hui.
La haute gastronomie au monde compétitif est souvent impitoyable, certes, mais ce concours se veut plus que de mettre aux prises des jeunes chefs en herbe. Yang Yun, directrice de Mentor.
Nous les aidons à développer leur carrière et à devenir de meilleurs chefs. Selon leur expérience, nous les guidons vers ce qui leur convient. Faire partie un jour de l'équipe américaine au Bocuse d'Or est aussi quelque chose qui les motive grandement.
Mais au bout du compte, il faut bien récompenser les meilleurs. Côté commis de cuisine, c'est elle, Mimi Chen, qui a été consacrée. Quant à la palme du meilleur jeune chef, elle a été décrochée par Vincenzo Losetto, deux jeunes bien partis pour jouer dans la cour des grands, la cour de ces grands chefs étoilés. Jacques Aristide, VOA Afrique, New York.
À présent, la Minute Éco, John Lennon.
Plus de 400 parlementaires d'une soixantaine de pays ont fini hier à Genève une réunion de la conférence parlementaire sur l'Organisation mondiale du commerce. Les participants ont insisté qu'il était de la plus haute importance que tous les membres de l'OMC mettent en œuvre les décisions du cycle de Doha, parmi lesquelles la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges. La justice algérienne, saisie par le gouvernement, a gelé le rachat du groupe de presse El Khabar par l'industriel Izzat Rebrad, première fortune du pays. Monsieur Rebrad, déjà propriétaire du quotidien francophone Liberté, a dépensé environ 40 millions d'euros pour s'offrir El Khabar.
Le milliardaire a souvent accusé Alger de faire obstacle à ses projets d'investissement dans le pays et à l'étranger. La Banque centrale américaine devrait prolonger sa pause sur les taux d'intérêt. Ces nouvelles prévisions économiques retiendront toutes les attentions alors que les marchés cherchent à savoir, 6 mois après le premier relèvement des taux survenu en décembre dernier, si la Fed prévoit toujours de hausser les taux cette année. Les taux directeurs américains évoluent actuellement entre 0,25% et 0,50%.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Merci à Anne Alberson, Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.